Les par actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes le jeudi 13 avril 2017 et c'est Clotilde Seuil qui vous présente les paractualités du jour avec les titres. Paraplégique, elle est forcée de vivre avec 110 dollars par mois. Écouteurs, Louis des jeunes est-elle plus à risque? Vrai. Colloque « Gardons la flamme » de l'éducation spécialisée qui sera présentée au cégep régional de la Naudière à Joliette. Parmi les nouvelles aussi, Québécois est heureuse d'appuyer pour une première fois les Jeux d'été 2017 olympiques spéciaux à Québec. Dépistage néonatal de la fibrose kystique s'est réclamé à corps et à cri par la division québécoise de fibrose kystique Canada. Et puis, Jeux paralympiques de Rio, la Russie est déboutée par le tribunal fédéral suisse. Deux entrevues encore aujourd'hui. D'abord avec Marlène Mongeau-Desgagnés, coordonnatrice de l'intégration sociale et socio-professionnelle au parrainage civique Les Marronniers Jarry 2e. Et également avec Linda Gauthier, un sujet dont nous parlons déjà depuis quelques jours, le rejet de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au sujet de plaintes liées au transport en commun. Alors, une jeune femme paraplégique a appris récemment que son aide gouvernementale est coupée en raison de son nouveau statut de conjoint de fait. Le couple de Québec est maintenant confronté à des choix déchirants. Ce n'est pas normal que, parce que je travaille ou parce que je veux rester ici pour l'aider, parce que je l'aime, l'État me force quasiment à m'en aller d'ici, a soutenu Hugo Gauthier, son conjoint. Le jeune homme ne voudrait surtout pas quitter sa conjointe qu'il soutient chaque jour dans sa maladie, le spina bifida. Caroline Morin n'a plus l'usage de ses jambes et elle est clouée à un fauteuil roulant. J'ai reçu une belle lettre disant « Nous avons décidé de couper votre chèque d'aide sociale parce que vous êtes en couple », a-t-elle raconté. Le nouveau chèque de Caroline n'est que de 110 dollars. « Je recevais avant qu'il me coupe 954 dollars par mois », a-t-elle expliqué. « On vivait ensemble pour réussir à s'en sortir mieux et puis ça arrive », a dénoncé son conjoint qui travaille comme livreur pour un restaurant. Il gagne 14 000 dollars après impôts par année. « Ils ne prennent aucune de mes dépenses en considération, juste les revenus », a ajouté l'homme. « S'il demandait de l'aide sociale, il pourrait obtenir une somme plus élevée, mais il veut continuer à travailler. Il tente donc de se trouver un gagne-pain plus payant, mais dans ce cas, Caroline perdrait entièrement sa prestation. » Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a expliqué que c'est le revenu de l'ensemble du ménage qui est calculé. Il invite le couple à faire réviser sa situation. S'il se sent lésé, des recours seront possibles, a rappelé le ministère. « Je pense que l'État pourrait faire un peu plus pour l'aider », a conclu Hugo Gauthier. « Ce n'est pas comme si elle avait choisi d'être handicapée. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas un choix. » Écouteur, Louis des jeunes est-elle plus à risque? Vrai, c'est un article qui nous vient de l'agence Science Presse. De nos jours, les jeunes de tous âges utilisent des casques d'écoute. Grâce à eux, les tout-petits peuvent se faufiler hors du lit le matin pour écouter Pas de patrouille sans déranger leurs parents et les adolescents peuvent écouter leurs chansons préférées en boucle sans irriter la maisonnée. Cependant, bien des parents craignent que l'usage fréquent des casques d'écoute endommage l'ouïe de leurs enfants. Une crainte qui semble fondée, mais dont l'issue est évitable si l'on suit certaines recommandations. L'utilisation d'un casque d'écoute pour écouter de la musique, regarder une émission ou jouer à des jeux vidéo n'est pas un problème en soi, si le niveau sonore est adéquat. Une importante étude publiée en 2001 a conclu qu'environ 12,5% des enfants et des jeunes adultes américains souffrent déjà d'une déficience auditive connue sous le nom de seuil d'audition induit par le bruit. C'est un peu comme l'exposition au soleil, on ne doit pas en prendre trop souvent et plus c'est intense, plus on doit limiter la durée de l'exposition, explique Julie Barry, audiologiste et candidate au doctorat en santé publique à l'Université de Montréal. L'échelle des décibels est logarithmique, ce qui veut dire qu'une augmentation de 10 décibels multiplie par 10 la puissance sonore. Dans le cadre d'un projet auquel elle a participé en 2008, près de 50% des 14 à 17 ans interrogés écoutaient quotidiennement de la musique à 100 dB pendant de longues périodes, alors qu'on recommande un maximum de 85 dB pour une courte durée. La perte d'audition est définitive. Attention, la prévention reste la meilleure stratégie. Et puis, l'utilisation d'un bon casque d'écoute permet également d'entendre clairement la musique à des niveaux sonores plus faibles. Les écouteurs et casques anti-bruit réduisent le bruit de fond de sorte que les utilisateurs peuvent percevoir nettement les sons sans avoir à augmenter le volume. Elle est coordonnatrice de l'intégration sociale et socio-professionnelle au parrainage civique Les Marronniers-Jarry deuxième. Et j'avais hâte de l'entendre ce matin nous parler d'une consultation jeunesse dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Bonjour, Madame Mongeau-Dégagné.
Oui, bonjour.
Alors, Madame Mongeau-Dégagné, je voudrais d'abord, très brièvement, s'il vous plaît, si les gens ne vous connaissent pas tellement, que vous nous rappeliez la mission de votre organisme.
En fait, le parrainage civique Les Marronniers-Jarry deuxième est un organisme communautaire qui contribue à l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir d'agir des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Mm-hmm. Et il participe également activement au sein de la région de Montréal à la démystification de ce type de déficience et également soutient l'intégration sociale et socio-professionnelle des personnes.
Et le parrainage civique, Madame Mongeau-Dégagné, de quoi parle-t-on exactement?
En fait, le parrainage civique est une approche qui s'est installée ici au Québec dans les années 80 pour faciliter en fait l'intégration des personnes qui étaient à l'époque institutionnalisées et qui, dans le fond, recueillaient des parrains-marraines, donc des bénévoles de la communauté qui souhaitaient s'investir auprès de ces personnes qui avaient à l'époque, en fait, été victimes de stigmatisation.
Oui, oui.
Et donc, au fil des ans, le jumelage d'amitié s'est développé chez nous, en fait, à d'autres formes de jumelage.
Mm-hmm.
Et c'est, dans le fond, à l'ouverture du Jarry deuxième, qui était à l'origine un café-bistrot en 2013,
oui,
que nous avons développé des stages en intégration au travail.
Okay.
Pour des jeunes adultes qui vivent avec différentes limitations, principalement la déficience intellectuelle, mais depuis 3 ans, on accueille bien sûr des personnes qui proviennent de d'autres établissements scolaires et qui, en fait, peuvent avoir des troubles du spectre de l'autisme et des troubles d'apprentissage. Donc, ce stage que les jeunes viennent faire ici, c'est également une possibilité pour eux d'être en relation de jumelage, éventuellement dans un cadre professionnel, ce qui permet à ces jeunes âgés de 18 à 35 ans qui sont en démarche de transition école-vie active de développer leur intérêt autour finalement d'un projet de vie qui normalement débute à l'âge de 18 ans. Donc, le service traiteur, le J2, c'est un projet, en fait, qui est la suite, finalement, de cette ouverture que nous avons connue en 2013 du Café Bistrot, le Jarry deuxième.
Oui, 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 oui.
Le Jarry deuxième, finalement, s'est positionné l'année passée en août dernier et fermé cet espace ouvert à la population pour se concentrer sur le service traiteur, qui est un fonctionnement de travail beaucoup plus facilitant pour les personnes que nous accueillons chez nous. Et puis, on a également, pour travailler à toujours faire de la démystification, on a ouvert un service traiteur où on gère, en fait, la cafétéria de l'École nationale de cirque qui est située tout juste en face.
Ah oui, bien sûr!
Oui.
Quelle bonne idée!
Oui.
Ce jumelage.
Oui, exactement. Donc, c'est de cette façon-là, finalement, que le parrainage a fait évoluer le concept de jumelage. Et depuis l'automne dernier, nous sommes en planification stratégique, ce qui nous amène franchement là à réfléchir sur les fondements de l'organisme et d'essayer de lui donner un second souffle pour justement faire en sorte que ces différentes formes de jumelage vont pouvoir là se développer, se déployer dans les prochaines années.
Et cette consultation jeunesse que vous annoncez, est-ce que c'est vous qui montez ça et dans quel but?
En fait, la consultation jeunesse, c'est un rêve que j'ai depuis toujours parce que je me disais, ce serait le fun d'évaluer un petit peu l'impact de notre service de service traiteur auprès des jeunes qui sont en démarche d'apprentissage au travail chez nous. Puis on avait vraiment toujours un peu, si on veut, le temps qui file. Donc, cette consultation jeunesse nous a un peu amené finalement rapidement à faire une démarche finalement qui s'inscrit dans un espace plus grand qui sont les festivités du 375e anniversaire de Montréal.
D'accord.
Et nous, en fait, comme organisme communautaire, on a été interpellés sur le comité aviseur de Concertation Montréal pour pouvoir amener la voix des personnes en situation de handicap handicap et faire en sorte que finalement, ces jeunes qui vivent différentes limitations fonctionnelles puissent avoir un espace de parole privilégié. En fait, depuis les dernières semaines, là, les jeunes sont très, très, très consultés et ça va aboutir finalement à ce qu'il y ait une nouvelle stratégie jeunesse montréalaise 2018-2022 qui va se déployer par la suite. Donc, les festivités, il y a toutes sortes d'activités dans le cadre de cet événement-là ici à Montréal. Mm-hmm. Et nous, en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, profiter de cette chance que nous avons, donc un espace qui pourra être, parce que l'issue de cette consultation-là et de toutes les consultations jeunesse qui ont eu lieu à Montréal vont donner lieu finalement à un sommet jeunesse.
Un sommet, hein?
Exactement.
Qui s'en vient à grands pas, là, au mois de mai.
Ben oui, c'est bien vite encore. Beaucoup de choses à préparer. En
bien
fait,
sûr.
Je souligne l'investissement de Concertation Montréal et le Forum jeunesse de l'île de Montréal.
D'accord.
Qui s'affaire actuellement à finaliser les derniers préparatifs et élaborer les différentes thématiques qui vont être discutées au sommet jeunesse.
Bien sûr.
Oui,
pardon.
Allez-y.
Ben, c'est parce que ça va se passer où? J'ai pas l'information de ça. Ce sommet jeunesse, donc, qui se tiendra les 6 et 7 mai prochains, ça va se passer où? Qui peut y participer? Comment on s'inscrit?
En fait, le sommet jeunesse donnera lieu à différents échanges au Centre des sciences de Montréal,
D'accord.
dans le Vieux-Port.
D'accord.
C'est une activité, en fait, qui se tient évidemment, comme vous l'avez dit, sur les deux jours, le 6 et le 7 mai
D'accord,
prochain.
Ouais.
C'est une activité à grand déploiement. C'est une activité à grand déploiement. Pardon, là, j'ai de la misère avec mes accords, mais ces moments d'échange seront très riches et rejoindront, en fait, les jeunes âgés entre 12 et 30 ans. Qui se joindront aux différentes tables d'échange pour pouvoir poursuivre, dans le fond, la transmission de leurs rêves sur qu'est-ce que Montréal pourrait devenir afin qu'il soit davantage accessible, d'une part, pour les personnes qui vivent différentes limitations fonctionnelles. C'est quand même une préoccupation.
Très rapidement, on pourra consulter les résultats de cette commission et de ce sommet jeunesse, où, quand, etc.
En fait, actuellement déjà, il y a des écrits sur le site www.jeunesse375mtl.com.
Oui.
Où vous allez avoir la chance de rencontrer les ambassadeurs le profil des ambassadeurs qui ont été sélectionnés à l'issue d'une démarche de recommandation. Donc, dans les 19 arrondissements de Montréal, chaque personne qui a été choisie a tenu différentes consultations jeunesse. Ces consultations jeunesse ont touché différentes thématiques, ont rejoint différents jeunes dans différents lieux. Finalement, lors de cette rencontre, on pourra davantage pousser les échanges. Et les ambassadeurs, nous, on a eu la chance, en fait, d'avoir le contact de Maude Massicotte, qui représente finalement la jeunesse vivant avec différentes limitations fonctionnelles et qui a tenu différentes consultations dans son arrondissement.
D'accord.
Et moi, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Marc-André Ross, qui lui est de notre arrondissement ici, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et qui ont rencontré les jeunes. Et ça a été une rencontre incroyable que nous avons tenue ici au parrainage civique, les Marronniers, Jarry 2e. Et nous avons été très touchés, en fait, des intérêts,
je comprends.
Mots que les jeunes nous ont
Bien
transmis.
Sûr. Madame Mongeau-Desgagné, le temps file malheureusement et j'ai d'autres nouvelles d'actualité qu'il faut que je partage avec les auditeurs. Mais je vous remercie de nous avoir parlé de cela. Juste une adresse pour finir, pour que les gens puissent aller voir de quoi nous avons parlé depuis quelques minutes.
Oui.
À quelle adresse vont-ils?
Alors, l'adresse web jeunesse375mtl.com. Donc, l'activité
D'accord.
de jeunesse se situera le 6 et le 7 mai
D'accord.
au
Parfait.
Centre des sciences de Montréal. Et c'est gratuit. Tous les jeunes sont invités.
D'accord. Pas besoin d'aller s'inscrire. On peut aller là-bas comme ça.
Il faut s'inscrire.
Ah, il faut s'inscrire. D'accord.
L'inscription se fait.
D'accord.
Et c'est gratuit.
Merci beaucoup, Madame Mongeau-Desgagné. Passez une belle journée.
Merci bien. Bonne journée aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Le département de technique d'éducation spécialisée du Cégep régional de la Naudière à Joliette invite les éducateurs spécialisés de toutes les régions du Québec à participer à un colloque qui aura lieu les 8 et 9 juin prochains dans les locaux du Cégep ainsi qu'à la salle Roland Brunel. C'est sous le thème « Gardons la flamme » que se déroulera cette 5e édition avant de mettre de l'avant le riche potentiel des éducateurs spécialisés. Pour l'occasion, des invités de renom seront présents comme la chercheuse, professeure et conférencière émérite Sonia Lupien et le comédien, auteur et conférencier Martin Larocque. Madame Lupien ouvrira le colloque et abordera la notion du stress en général et ses effets sur la mémoire. Une description détaillée des effets aigus et chroniques du stress sur la santé physique et mentale sera aussi présentée dans le but de mieux reconnaître les symptômes qui y sont associés. Monsieur Larocque, quant à lui, clôturera le colloque en offrant une pause au ton humoristique, mais également en amenant des pistes de réflexion qui donneront un sens à tout ce que les participants souhaitent entreprendre. Ce grand rassemblement a pour objectif d'offrir un moment de ressourcement, d'échange et de réflexion par le biais, entre autres, de nouvelles technologies, de techniques d'intervention innovantes ou d'approches inspirantes aux 400 éducateurs spécialisés de la région de la Naudière et de tout le Québec qui seront présents. Québecor est heureuse d'appuyer pour une première fois les Jeux d'été 2017 d'Olympiques spéciaux Québec qui se tiendront dans la ville de Québec du 29 juin au 2 juillet prochain. Près de 1000 athlètes de tous âges ayant une déficience intellectuelle seront présents à ce rendez-vous sportif. Il s'agit d'un record de participation dans l'histoire de cette organisation. J'aimerais souligner la participation des équipes de TVA Québec et du Journal de Québec qui contribueront à la mission de cet événement qui souhaite sensibiliser davantage la population aux talents de ces athlètes présentant une déficience intellectuelle, a dit M. Pierre-Carl Pelladeau. C'est un sujet, oui, que nous avons abordé il y a déjà 2 jours, le rejet de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse relié à des plaintes liées au transport en commun. Et il y a une femme qui est la présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, donc le rapplique Linda Gauthier, qui mène ce dossier depuis maintenant plusieurs années et pour qui ça a été une énorme déception. Bonjour, Madame Gauthier.
Bonjour, Clotilde.
Linda, alors, gros soupir hein, dans ma voix, parce qu'effectivement, ce rejet-là, c'est vraiment un sale coup. Hein. C'est ouais. J'imagine, vous ne deviez même pas vous y attendre, finalement, tellement c'est bas, finalement.
Absolument
quoi.
Pas. On ne s'y attendait pas. D'ailleurs, on croyait que le recours collectif qu'on mène parallèlement à ce dépôt de plainte-là, finalement, qu'on menait, parce que là, ils sont fermés. On croyait, nous, qu'à partir du moment où le recours allait être autorisé, et que là, à ce moment-là, les plaignants
oui.
qui avaient déposé les plaintes en 2011 auraient à choisir en un ou l'autre, parce qu'ils ne pouvaient pas, évidemment, faire partie des deux.
Oui.
Et la commission avait même mentionné à l'époque qu'ils étaient d'accord pour attendre au moment où on avait déposé le recours collectif. C'était entendu. Et finalement, on recule là, d'à peu près 10 ans.
Oui, c'est ça.
Bon
hein. Quel type de plainte avait été déposée pour qu'on se rende compte à peu près?
Alors, c'est des plaintes en discrimination fondées sur le motif de toutes les personnes handicapées contre la STM et les 3 volets de la STM, c'est-à-dire le transport adapté, les autobus réguliers de la ville, qui sont tous accessibles par rampe, et pour l'inaccessibilité du métro, bien évidemment.
Et alors, j'imagine, quand vous parlez de discrimination, vous parlez de quoi? De
traitement différent.
Traitement différent, c'est ça, oui. Exactement. Bon, alors, la décision rendue par le CDPDJ le 15 mars dernier, quelle avait été cette décision?
En fait, la décision a été rendue le 19 janvier. C'est ce qui fait un peu toute la différence.
Ah, c'est ça.
Le 19 janvier, on a reçu seulement la lettre le 15 mars. Ah. Et elle était à l'effet que ce n'était pas des facteurs discriminatoires que contenaient ces plaintes-là.
Non.
Pour le temps passé, il y en avait 17 plaintes. Et ce n'était que leur applique et les plaignants n'étaient pas en accord avec les services offerts.
Ah.
Voilà. Et comme je vous disais, le 19 janvier, il n'y avait qu'une seule commissaire à la charte. Parce que, voyez-vous, c'est la commission,
ça.
Donc c'est constitué de commissaires.
Il y en avait une sur combien de personnes?
Une sur... Il doit avoir au moins 5 commissaires à la charte.
Oui.
Et je crois que c'est 7 commissaires à la jeunesse. Et un commissaire à la jeunesse ne peut pas prendre la décision pour un commissaire à la charte. Et il y avait seulement une personne, une commissaire à la charte, c'est elle qui a pris sur elle. Mmh. En fait, de prendre la décision de fermer nos dossiers, c'est donc dire qu'elle allait au-dessus de ce qu'avait déjà statué Cour suprême du Canada dans un autre arrêt.
Mais quelles sont les raisons qui ont été invoquées, Linda Gauthier?
Faute de preuves. Contrainte excessive par rapport à la STM. On disait que nous, ce qu'on reprochait à la STM, si eux mettaient ça en œuvre, c'est-à-dire de faire l'accessibilité, mm-hmm. d'y aller plus rapidement et de faire de l'entretien et tout ça, ça allait constituer une contrainte excessive. Ça allait coûter beaucoup trop de sous. Ça, c'était un autre des arguments. Mm.
C'est un des arguments. Et puis,
sans voir de preuves, là.
Non,
sans
c'est ça.
Enquête, ouais.
C'est ça. Et puis, où est-ce que j'ai lu quelque part que finalement, il disait qu'il n'y avait pas eu de discrimination, qu'il y avait juste Eux, ils ne veulent pas le reconnaître. Hein?
Non, absolument pas. Pas de discrimination. C'est ça. Pas en accord avec les services que la STM offrait.
Mm-hmm.
C'est incroyable quand
c'est
même.
Fou.
Quand
c'est
vous dites
fou.
Que vous pouvez, exemple, vous habitez tout près d'une station de métro, vous travaillez à côté d'une autre et que ni une ni l'autre des deux stations est accessible par ascenseur, ben, je vois, c'est un très mauvais service à la clientèle.
Mais exactement. Ouais.
Mais
ouais.
Au-delà ouais. de ça, c'est un facteur discriminatoire.
Ouais. Ben oui, je veux dire, c'est fou que depuis 100 ans dans d'autres villes et depuis ici, je ne sais plus combien de temps, là qu'on a créé le métro, entre autres, qu'on n'ait jamais pensé à ça au départ.
Non. 51 ans, absolument.
51 ans, parce que c'est faire fi totalement d'une énorme partie de la population, quoi. C'est ça qui est... Et alors, selon vous, Linda Gauthier, les conséquences de cela, c'est quoi et qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Bon. Alors, les conséquences de ça, c'est que nous, on croit fermement, d'ailleurs, on n'est pas tout seul à le croire, des avocats, des femmes de loi, des hommes de loi croient la même chose, que c'est une forme de représailles à l'égard du réplique.
Oh.
Parce que nous déposons beaucoup de plaintes, évidemment, à la Commission des droits. C'est toutes des plaintes individuelles, j'entends, pas seulement pour nous, mais pour des gens qui s'adressent à nous, nos membres ou d'autres personnes.
Bien sûr.
En tout cas, on croit que ça serait une façon pour la Commission des droits de nous mettre la pédale basse.
Mm-hmm.
Alors, si on accepte ça, Clotilde, ça fait en sorte que ça va continuer à être comme ça.
Bien sûr.
Et nous, on va en révision judiciaire de ça. C'est-à-dire qu'on va aller en Cour supérieure.
Bien sûr.
Pour demander ce que ça soit, je sais pas, en tout cas, comment ils vont faire ça, parce que moi, je veux dire, je suis pas une avocate,
mais non,
je sais
c'est
pas
ça.
Trop, mais non, on n'est vraiment pas d'accord avec ça. Ça va nous coûter des sous, c'est malheureux.
C'est ça, mais oui. Ouais. Et alors là, en plus, vous en aviez fait un petit peu avec la campagne, un peu avec l'huile, là, là, il faudrait... Alors, comment on peut vous aider? Tiens, il y a peut-être des gens en ce moment qui auraient... Qu'aurait quelque chose, on communique avec le réplique?
Oui, communiquer avec le réplique. Et puis, écoutez, on a un organisme qui veut nous aider pour émettre des reçus pour fin d'impôt.
Oui, d'accord.
Alors, c'est pas nous, on n'a pas de numéro de charité, mais on peut bénéficier de celui d'une autre, d'une autre compagnie, d'un autre organisme. Alors, oui, ça nous aiderait. Ceux qui veulent envoyer quoi que ce soit,
bien sûr,
ça nous aiderait toujours parce que c'est qu'on parle d'au moins 10 000 $. Ouais.
Lâchez pas, Linda, parce que effectivement, il y a peut-être des gens qui souhaiteraient qu'on vous entende un peu moins, mais nous, non. et on vous donnera encore une fois la parole et autant de fois qu'il le faudra. Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, qu'on connaît mieux sous l'acronyme du RAPLIQUE. Merci beaucoup, Linda.
Merci, Clotilde.
Bonne journée malgré tout.
Merci.
Allez,
au revoir.
Fatigué de voir que le Québec demeure la seule province à ne pas avoir adopté de politique de dépistage néonatal de la fibrose kystique, Ariane Lacourcière, dans La Presse, signe un papier et qui nous dit que la Division québécoise de fibrose kystique Canada intensifie ses efforts afin de convaincre le gouvernement d'aller de l'avant avec cette démarche. L'association a lancé la semaine dernière une campagne de sensibilisation sur le sujet. Ça fait 10 ans qu'on milite pour implanter le dépistage néonatal dans la province, mais rien ne bouge. C'est notre priorité cette année. Il est temps que ça change, affirme Yannick Brouillette, directeur général de Fibrose Kystique Québec. Dès 2008, l'Ontario et l'Alberta ont implanté des programmes de dépistage néonatal de la fibrose kystique. Les autres provinces canadiennes ont suivi, mais pas le Québec. Pour M. Brouillette, dépister tôt la maladie est important afin d'amorcer rapidement les traitements et d'éviter les complications chez les enfants touchés. Rappelons que la maladie, la fibrose kystique est une maladie qui touche les appareils respiratoires et digestifs des personnes qui en sont atteintes. Le mucus de ces personnes est anormalement épais, ce qui entraîne entre autres de graves problèmes respiratoires. Il y a 1400 personnes atteintes de la fibrose kystique au Québec et l'espérance de vie d'une de ces personnes est malheureusement pour le moment de 52 ans. Le tribunal fédéral suisse a rejeté mercredi l'appel fait par la Russie de la décision de l'exclure des Jeux paralympiques de Rio. La Russie avait déjà été déboutée en août 2016 par le tribunal arbitral du sport. Radio-Canada, avec l'agence France Presse, signe ce papier. Le recours est rejeté, a indiqué la plus haute instance juridique de la Suisse dans une décision prise le 3 avril et publiée mercredi. Le Comité paralympique international, l'IPC, avait annoncé le 7 août 2016 un mois avant les Jeux paralympiques de Rio, qui ont eu lieu, on vous le rappelle, en 2016, du 7 au 18 septembre, avoir suspendu le comité paralympique russe en raison d'un vaste scandale de dopage. Le comité russe avait d'abord fait appel, le comité paralympique avait fait appel de cette décision devant le TAS, le TAS, la plus haute instance de la justice du sport, et le TAS avait rejeté cet appel. En excluant l'ensemble des athlètes paralympiques russes, l'IPC s'était montré plus strict que le comité olympique international qui avait laissé les fédéraux, les fédérations internationales, juger au cas par cas de la présence des athlètes russes au JO de Rio, tout en gardant un droit de regard final sur leur décision. Et puis, en bref, avis à tous les intéressés, c'est le temps des inscriptions pour la saison d'été du programme de soccer adapté de l'ASSL. Ils sont très fiers de cette nouvelle puisqu'ils en seront à leur 5e saison consécutive. On vous rappelle que c'est une association qui rejoint et qui regroupe des jeunes autistes qui ont entre 6 et 17 ans, qui ont envie de jouer au soccer avec des amis. Voilà, c'était les paractualités en ce jeudi. Bonne fin de semaine de Pâques et à mardi.